Bonsoir, comment allez-vous? À chaque fois qu'on est victime soit d'une somme excessive de travail à la maison comme dans l'entreprise, de travail mais aussi de responsabilité, de stress, à chaque fois qu'on est victime des actions tordues d'un pervers, quand on s'effondre, on se dit, on nous dit, c'est normal, tu t'es pris le projectile en pleine face. Donc tu es bien victime. Et puis une petite voix nous dit, mais d'autres, en recevant la même dose de nocivité, ne se sont pas effondrés. Comment font-ils? Souvent d'ailleurs, cette constatation nous redonne une louche de tristesse et de culpabilité. Je suis vraiment trop nulle. Et si c'était les autres qui étaient vraiment trop forts? Donc, comment font-ils les trop forts? C'est ce que nous allons voir ce soir.
France Inter, état d'esprit, Noël Bréham.
Alain Lancelot, bonsoir.
Bonsoir Noël, merci de votre invitation.
Eh bien merci d'être venu surtout. Alain Lancelot, vous êtes sophrologue, vous êtes coach, vous êtes auteur de Une révolution positive, c'est édité chez Larousse, et puis vous avez traduit La visualisation positive pour les nuls de Robin Nixon, et vous avez rajouté, votre, en plus de la traduction, votre patte.
Oui, alors j'ai adapté.
D'accord.
Effectivement, parce que la visualisation positive, lorsqu'on est anglo-saxon et lorsqu'on est, nous, dans notre vieux continent, on n'a pas du tout la même façon de voir.
D'accord, vous l'avez mis à la française, quoi.
Exactement.
Je comprends. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est la sophrologie?
Alors la sophrologie, c'est une technique qui a été mise au point par un neuropsychiatre dans les années 60, qui a d'abord travaillé à l'hypnose, et puis après il a créé sa propre méthode, où on fait le lien entre le corps et l'esprit. Et très souvent dans votre émission, vous parlez de ce lien très important que l'on connaît notamment en Orient. Mais chez nous, ça commence à venir et ce lien est important. Donc c'est une technique qui va permettre de travailler et sur le corps, mais également avec la visualisation positive, justement.
Alors vous racontez dans ces deux livres, d'ailleurs, vous l'évoquez, Alain Lancelot, notre fameux Émile Coué, de la méthode Coué. Alors ce serait peut-être bien pour commencer cette émission de balayer des idées reçues mensongères, mais comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, écoutons Émile Coué. Alors, tendez bien l'oreille, c'est touchant, mais c'est pas clair, puisque c'est un enregistrement qui date des années 20.
Je vais vous expliquer en peu de mots les deux principes sur lesquels j'ai basé ma méthode d'autosuggestion consciente. Le premier, celui-ci. Toute idée que nous avons dans l'esprit devient une réalité dans le domaine de la possibilité. Si par exemple, nous avons une jambe coupée et que nous nous imaginions que cette jambe va repousser, naturellement, elle ne repoussera pas, parce que cela est impossible. Mais, si nous éprouvons une douleur dans une partie quelconque de notre individu, si nous avons des organes qui ne fonctionnent pas normalement, si nous avons des idées tristes, et que nous nous imaginions que la douleur va disparaître, que les organes malades vont fonctionner de mieux en mieux, que les idées tristes vont s'évanouir pour faire place à des idées gaies, cela se produira, parce que cela est possible.
Voilà, c'était Émile Coué. Est-ce que vous pouvez nous dire qui était cet Émile Coué et en quoi consiste cette méthode qui n'est ni le déni de la réalité, ni le mensonge? Il ne s'agit pas de dire que le ciel est bleu quand il est gris. Et...
C'est ce que l'on croit effectivement et je pense que ça a dénaturé la pensée d'Émile Coué. Déjà, merci de le passer, c'est toujours émouvant de l'entendre.
Ah, c'est gentil Alain.
Ah, vraiment, vraiment, oui. Ça me fait très plaisir.
Bah, merci à Marjorie, c'est elle qui l'a dégoté.
Alors, merci Marjorie. Alors, Émile Coué, c'est un pharmacien du 19e qui, un jour, a reçu dans son officine, sans faire trop long, une patiente. Il ne savait pas comment la soigner. Donc, il a eu l'idée de lui donner un médicament, mais à l'intérieur, il n'avait rien. Mais il n'y avait que lui qui le savait. Donc, comme il lui faisait confiance, elle a pris ce médicament. Elle est revenue en disant, oh, vous savez, c'est miraculeux ce que vous m'avez donné. Et là, il a commencé à se dire, mais ça veut dire que l'esprit a un effet sur le corps.
Donc il avait découvert le placebo, quoi.
Exactement, le placebo. Et puis il avait une phrase que j'aime beaucoup, beaucoup. Et ça permet de rendre honneur à cette personnalité qui a été un petit peu oubliée, il est vrai. Et dont beaucoup de techniques actuelles de bien-être utilisent les découvertes.
Émile Coué, il n'a pas été oublié, il a été déformé.
Déformé, voilà. Ah oui, totalement, totalement. Et il disait notamment, s'il y a un conflit entre l'imagination et la volonté, c'est toujours l'imagination qui l'emporte.
Ah bon?
Et vous savez, cette fameuse phrase « vouloir, c'est pouvoir ». C'est une des plus grosses bêtises qu'on ait pu jamais dire.
Ah bon ?
Mais oui, il utilisait un exemple que j'aime beaucoup. Si je mets dans ce studio une planche très solide, je vous demande de marcher dessus, vous allez marcher dessus. Maintenant, si je prends celle-ci et je la mets au sommet de la maison Radio France à 150 mètres de haut...
Ah, j'irai pas.
Et ben voilà. Et qu'est-ce qui fait la différence ? Même si vous avez la volonté de monter dessus, c'est l'imagination qui va prendre le dessus. Parce que vous allez imaginer tomber, vous allez pouvoir mourir, vous allez avoir peur.
C'est vrai que la planche par terre, même si elle est étroite, je ne mettrai pas le pied à côté.
Mais voilà.
Évidemment.
Voilà. Alors que sinon, on se focalise des fois sur des choses qui sont imaginaires et qui nous empêchent de trouver justement la capacité de faire les choses, d'atteindre un objectif, d'être heureux ou tout simplement de se dire je vais dépasser un problème. Parce que la méthode Chloé, c'est pas dire tout va bien. Ça, c'est ce que j'appelle le positivisme à tout va, qui est une bêtise parce que quelque part, on ment à son mental.
Donc, la visualisation positive, c'est ce dont nous parlons ce soir. Le mensonge reste le mensonge. C'est pas de ça dont il s'agit.
Non.
Mais en même temps, vous tenez ça d'Émile Coué et c'est un petit peu la base de votre pratique, Alain Lancelot, de votre pratique de sophrologue. L'imagination est plus forte que la volonté. C'est ça,
oui.
Hein, c'est ça votre
phrase. Oui. Parce que, quand je dis qu'il ne faut pas mentir au mental, on a un mental fantastique. Je sais que vous recevez régulièrement des neurologues et des gens qui s'intéressent au cerveau. Et c'est une boîte de Pandore incroyable. On en connaît encore pas grand-chose. Mais on a découvert dans les années 90 les neurones miroirs, qui sont les fameux neurones de la connaissance. Vous voyez quelqu'un faire quelque chose, vous avez envie de le faire. C'est-à-dire que si vous imaginez...
C'est le principe de la pub.
Mais ils utilisent ça, justement.
Ah, oui.
On utilise ça. C'est quelque part une manipulation. Quand elle est gentille, c'est très bien fait.
Moi, j'ai absolument pas envie de manger une glace au chocolat, mais si je vous vois en manger une, ça va me donner envie.
Et mais évidemment. Ça, c'est les fameux petits neurones miroirs qu'on a découverts dans les années 90. Et ces neurones font que, si vous imaginez que vous êtes en train de faire quelque chose, que vous êtes en train de dépasser un obstacle, que vous êtes en train d'aller chercher une capacité à l'intérieur de vous, que vous avez laissé de côté pour raison X ou Y, peut-être pour des souvenirs d'enfance ou un choc traumatique, eh bien, progressivement, vous allez entrer une nouvelle façon de penser, vous allez entrer ce que j'appelle un chemin neuronal,
oui.
Et vous allez vous entrer vers la réussite. Mais la répétition va faire que cette pensée positive va arriver une fois, deux fois, trois fois, elle va devenir un sillon neuronal, et ça va devenir une croyance, et ça va vous permettre d'avancer. Mais on ne ment pas sur le risque, c'est-à-dire s'il y a un obstacle, on va dire « j'ai les ressources pour dépasser ceci ». On ne va pas mentir en disant « oui, ça y est, tout est ouvert pour moi, j'y arrive ». Non, parce que ça, on va vraiment se mentir.
Alain Lancelot, une pensée devient une croyance, de la même manière qu'on fait un chemin en marchant,
exactement,
toujours au même endroit, on finit par faire un chemin, et peut-être même une route d'ailleurs.
Exactement.
On marque un trajet. Alain Lancelot, avec la visualisation positive, ce soir, dans État d'esprit sur France Inter.
Se lève et j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. Déjà les étourneaux volent là-haut, merveilleux nuage d'oiseaux. Mon amour, la belle heure pour s'aimer, l'aurore dans mon corps fait couler la rosée. Le ciel est clair et l'air est encore frais par la fenêtre ouverte. Les feuilles du peuplier, la lune pâle traîne encore un peu. Regarde-la et ferme les yeux. Oh, mon amour, la valeur pour s'aimer. L'aurore tend fort, fais couler ta rosée. Le ciel est clair, l'air est encore frais. Par la fenêtre ouverte. Bell, rolling on the floor.
Ding, dang, dong, c'était extrait du 7e et dernier album d'Erita Mitsuko. Et Catherine Ringer qui chante « Le jour se lève, j'irai bien danser avec les feuilles de peuplier. Le jour se lève, j'irai bien chanter avec le merle d'à côté. »
J'entendais ça, c'est une belle visualisation positive. Parce que ça, on peut utiliser un moment comme ça, c'est des fois des moments de grâce, hein, quand on est dans la nature, qu'on regarde les choses, qu'on prend le temps. On entre ce qu'on appelle des images ressources. C'est-à-dire des images que vous allez entrer au niveau du cerveau, par tous les sens, et lorsqu'il fait gris, lorsque vous êtes au travail, lorsque vous êtes fatigué, vous ramenez à votre mémoire cette visualisation et ça devient une image ressource, c'est-à-dire que rien qu'en y pensant, ça va vous faire du bien. Donc moi j'adore, déjà j'adore la chanteuse, mais en plus la chanson, bah, je dis oui.
Ah, bravo.
Allons-y.
Alain Lancelot, nous vous avons invité pour la visualisation positive pour les nuls que vous avez adaptée au lecteur français. Et puis chez Larousse, une révolution positive. Donc vous nous avez expliqué comment finalement arriver grâce à notre imagination à pas forcément transformer les choses, mais attraper ce qu'il y a de bon dans la vie et s'en nourrir. Faudrait-il encore en avoir envie ? Il y a quelque chose d'assez étonnant, on a tous envie d'être heureux, et malgré ça, quelquefois, quand le bonheur est là, pour plein de raisons, on ne l'attrape pas. J'aimerais vous faire entendre notre célèbre psy canadien Guy Corneau, qui est mort au mois de janvier, et qui parle de son expérience personnelle. Dieu sait qu'il savait comment ça marchait le bonheur, et pourtant...
En 89, donc après l'écriture de Père manquant, fils manqué, et le succès instantané que ça a connu, j'étais complètement épuisé, en fait, et je suis tombé très, très, très malade. Et là, mon médecin voulait absolument m'opérer, ce qui pour moi était irrecevable parce que j'étais un psychanalyste, je me disais, mais s'il y a une partie de moi qui va si mal que ça, c'est parce que c'est des choses que je comprends vraiment pas et qu'elle essaie de me parler de façon très urgente. Et donc, je me suis dit, j'essaie de m'en sortir. Et là, j'entendais vraiment des voix dedans de moi qui me disaient des choses comme Guy, pourquoi est-ce que t'es pas heureux? Et là, je comprenais comment je m'étais créé mon propre drame. J'avais été enfermé dans ma propre mentalité, dans mon propre drame, en disant que c'est de la faute à papa, à maman et tout ça, puis qu'il n'y avait rien de tout ça qui tenait debout. Je disais, c'était moi qui m'étais, à travers tout ça, mes croyances, mes peurs, mes illusions, mes comportements, les attitudes que j'avais adoptées, m'étais créé une cage. Ça veut dire que la plupart du temps, j'utilise 99% de mes forces à résister. À résister à la joie, à résister à l'amour.
État d'esprit sur France Inter.
Voilà, c'était Guy Corneau qui expliquait, et pourtant il était bien placé pour pouvoir avoir accès à ce bonheur, et pourtant il mettait 99% de ses forces à résister. Alain Lancelot, vous êtes venu parler de la visualisation positive ce soir dans État d'esprit. Alors, vous rendez compte, même quelqu'un comme Guy Corneau, qui s'y connaît, entre guillemets, pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Parce que changer, d'accord, c'est possible, mais quelquefois on n'a pas envie.
Et oui, et puis souvent changer quoi ? La question, c'est j'ai envie de changer. Mais comme on ne sait pas ce qu'on veut changer, je veux trouver le bonheur. Alors déjà, j'aime bien ce jeu de mots, c'est le bonheur arrive à la bonne heure.
Ah, c'est drôle.
Donc déjà, le bonheur arrive lorsqu'on est prêt à le recevoir. Sauf que vous n'êtes pas bien. Vous avez envie de changer quelque chose, mais si vous ne posez pas la bonne question, qu'est-ce que je dois changer ? Au bout d'un moment, ben, on s'encercle en fait, on s'enferme. Et on ne trouve pas la sortie. Pourquoi ? Parce qu'on va s'exciter contre des murs invisibles. L'idée, c'est d'attendre, c'est de lâcher prise et de laisser venir les émotions. J'ai fait un burn-out et j'ai vraiment été très bas également. Et à un moment, j'avais pas envie. Et j'ai accepté le moment où je me dis, je suis en bas, à un moment, ça va remonter.
Mais Alain Lancelot, on peut peut-être avoir peur de rester longtemps comme ça en bas.
Oui, mais plus on a peur et plus on y reste. Vous avez parlé récemment des émotions.
Avec le docteur Philippe Jamais,
exactement,
dimanche dernier.
Passionnant. Et les émotions, il faut les reconnaître de façon à pouvoir les dépasser ou les multiplier. Mais le bonheur, c'est la même chose. Qu'est-ce qui nous rend heureux ? Souvent, on court après des chimères.
Par exemple.
C'est quelqu'un qui a trop de travail et qui va dire, oh là, moi je vais être heureux, moi ça serait les vacances. Vous le mettez en vacances, il déprime. Pourquoi ? Mais parce que les besoins primaires ne sont peut-être pas respectés. La question pour trouver le bonheur, c'est qu'est-ce qui me rend heureux ?
Vraiment.
Vraiment, vraiment.
C'est pas forcément les vacances.
C'est pas forcément ça. Le bonheur de l'un n'est pas le bonheur de l'autre. On ne se pose jamais la bonne question. Qu'est-ce qui me rend heureux ? Qu'est-ce que je dois lâcher ? Qu'est-ce que je dois laisser derrière moi ? Et une fois qu'on a répondu à ces questions, on se dit, ah bah oui, effectivement, ça veut dire qu'il faut que je change. Et pourquoi souvent le bonheur est anxiogène ? Parce que le changement est anxiogène. Le changement provoque du stress.
Je suis ce que je pense, disait le Bouddha. Oui. L'obésité. Donc, j'identifie ce que je veux, mm-hmm. je le visualise.
Tout à fait.
Et je sais, je suis intimement persuadée que je peux l'avoir.
Oui, parce qu'on va se mettre dans le mouvement. On va se mettre en marche de façon à partir, en fait, de façon à aller vers ce bonheur. Le fameux lâcher prise, c'est pas attendre et ne rien faire.
Une fois, vous venez de dire qu'il faut attendre et ne rien faire.
Non, j'ai dit qu'il fallait attendre, mais pas ne rien faire. C'est-à-dire, au début, si on veut, par exemple, je sais pas, changer de métier.
D'accord.
Bon, eh bien, on met tout en place pour changer de métier. Peut-être on quitte l'autre, s'il y a des risques, c'est vrai, mais on en prend le risque, justement.
Risqué.
Et puis après, on va mettre des choses en place. Et après, si c'est juste, les choses vont arriver. C'est ce qu'on appelle aussi la loi de l'attraction. Vous en avez peut-être déjà entendu parler.
Bien sûr.
La loi de l'attraction, c'est les choses arrivent à nous. Et on se dit, mais ce n'est pas possible. C'est de la magie. Non. Déjà, la magie, l'âme qui agit, c'est pas mal. Ça veut dire que c'est nous-mêmes. Ça veut dire que c'est à l'intérieur de nous. Mais si nous, on se met en mouvement, si nous, on a envie que le bonheur arrive, eh bien, du coup, on va aller chercher à l'intérieur de nous ce qui nous fait vraiment plaisir. On va prendre du recul. On va se poser, on va y réfléchir.
Donc la loi de l'attraction, plus on pense à quelque chose, plus cette chose a de chances d'arriver.
Oui, parce qu'on se met dans l'état de faire les choses. Par exemple, je suis venu ce soir avec grand plaisir pour faire cette émission. Le stress se nourrit de l'inconnu, la peur se nourrit de l'inconnu. Si vous dites, voilà, je vais faire une émission qui va être écoutée, j'ai très envie de la faire. Le stress monte, on va être dans l'enjeu.
Donc le stress et la peur.
Eh bien oui, mais donc je vais d'un seul coup me visualiser. Moi je me suis visualisé dans un studio, j'étais heureux de venir, et bien du coup, le stress a disparu parce que j'ai fait une visualisation positive. Et quand je suis arrivé ici, il y avait toujours, évidemment, l'appréhension de passionner, de vous passionner, de passionner les gens et de faire passer ce que j'ai envie de dire.
Mais vous
ceci
êtes
étant, je n'ai pas eu la peur du début.
D'accord. Voir quelque chose, plus on le voit, oui. plus on a de chances qu'il arrive.
Exactement.
Et si vous pensez que si je vois le pot de géranium qui me tombe sur la tête... Ma tête va attirer le...
Alors non, non, justement, votre intuition, parce que vous allez faire attention à votre intuition, va vous dire, ah, il y a un danger au-dessus de moi. Et vous allez vous décaler. Et là, le pot tombera à côté.
Maintenant, ce qu'il faut, c'est rajouter le mental. Vous souriez, vous relâchez, vous souriez, vous relâchez, vous souriez, vous relâchez, vous souriez, vous relâchez.
Brothers and sisters, you never miss your water till your well runs dry, till your well runs dry. Brothers and sisters, so let the teardrops fall
for what you have done,
hurting so many people, and you have no mercy.
Let the teardrops
them fall. Call your own. You're taking up your telephone, begging me to come home. But listen, my friend, I'll never make that mistake again. 'Cause you don't need me as a friend. So let the teardrops fall.
Let them fall.
For what you have done, you have no mercy, no pity for the little children. So let them fall. For what you have done. To call your own, you're taking up your telephone, begging me to come home. But listen, my friend, I'll never make that mistake again, 'cause you don't want me as a friend. So let the
teardrops
fall,
let the teardrops fall,
for what you have done.
Ce qui vient de sortir, c'était une reprise de 1968. Alain Lancelot, vous avez écrit Une révolution positive, c'est édité chez Larousse, et vous avez également adapté pour la France la visualisation positive pour les nuls. Alors, nous parlons de cette visualisation positive. On comprend bien que si on voit le verre à moitié plein, il sera de plus en plus plein, et que bien sûr, il faut y croire. Il ne faut pas croire à l'impossible, il faut croire au possible.
Il faut croire aux ses ressources et ses capacités.
Voilà. Mais en même temps, vous écrivez dans ces deux livres qu'il faut aussi lister ces difficultés, les identifier. Donc c'est un peu paradoxal. Il faut croire qu'on peut aller bien, mais en même temps, il faut voir ce qui cloche.
Oui, parce que si on identifie en fait nos difficultés, ça va permettre de les dépasser. Souvent, d'accord, comme je disais, vous parliez du bonheur tout à l'heure. Si on ne sait pas ce qui nous rend vraiment heureux, on ne pourra jamais l'atteindre. Donc l'idée, c'est de voir... Dans l'enfance, par exemple, quelles sont les blessures ? Dans l'enfance, quels sont les drivers, comme on dit, hein. Quand on est adulte, des fois, on veut être fort, on veut être grand, on veut être précis. Et tout ça, c'est des choses qu'on a eues quand on était enfant. Une fois qu'on se connaît mieux, eh bien, du coup, on peut utiliser le côté positif pour se dépasser.
Vous citez cette fameuse psyché québécoise, je crois d'ailleurs, oui, aussi, Lise Bourbeau, et ses cinq blessures.
Oui, l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice.
L'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation et l'injustice. Pourquoi vous la citez, Alain Lancelot ? Parce que vous trouvez que ça concerne tout le monde, ces cinq blessures ?
Oui. Ça concerne tout le monde et puis je me suis entretenu énormément avec des psys, je ne suis absolument pas psy, mais pour moi le travail sur la conscience est fascinant, quelque chose qui me fascine. Et donc souvent on se rend compte qu'on a tous et toutes les mêmes bases, les mêmes blessures. Et c'est vrai que j'ai trouvé intéressant cette approche. Identifions d'abord nos blessures de façon à, encore une fois, pouvoir les dépasser et pouvoir travailler avec, non pas contre, mais travailler avec. Le son que vous nous avez fait écouter, que j'ai adoré, vous avez dit « souriez, relâchez ». Et c'est fantastique parce que le sourire, vous savez que le sourire développe des hormones du bonheur. On a des hormones du stress, on pense aux hormones du stress, on pense à la peur, on pense aux émotions négatives. On trouve logique de pouvoir avoir peur de quelque chose. Mais quand on dit « mais vous savez, si vous souriez, ça vous fait du bien, physiquement parlant, mentalement parlant », on dit « mais non, c'est pas possible ». Et pourtant si, vous souriez...
Ça marche vraiment ?
Mais oui, vous souriez, vous développez les hormones du bonheur.
Le son qu'on vous a fait entendre, c'était extrait de « Rien du tout », qui est un film de Cédric Lapiche. C'était pour rire, parce que évidemment, comme c'est une fiction,
oui,
on a pris le côté excessif de la chose, mais vous pensez vraiment que quand on est heureux, on a envie de sourire, mais si on sourit, ça aide à être heureux.
Ah mais totalement, et ça a été prouvé effectivement dans la visualisation positive, vous avez peut-être vu, il y a tout un chapitre sur la neurologie. Et on s'est rendu compte effectivement que lorsqu'on sourit, lorsqu'on actionne les muscles du sourire, ça donne une information au cerveau, et ça diffuse les hormones du bonheur.
C'est la même chose, Alain Lancelot, pour se tenir droit, avoir des habits clairs, les cheveux propres, marcher d'une façon un peu tonique, ça rend de bonne humeur. Mais si on est de bonne humeur, c'est quand même un petit peu l'œuf et la poule. Hein. Alors c'est vrai que parfois, quand on entend des gens se plaindre, qui se mettent en position de victime, comme voilà, on dit, c'est affreux, ils nous agacent.
Mais exactement, ils nous agacent. Mais pourquoi ? C'est parce que la victimisation, c'est le refus de prendre du temps pour se poser les bonnes questions. Donc c'est toujours mieux de dire c'est de la faute des autres. Mais simplement, si on fait justement, on parle des blessures, on parle des drivers, on parle de tout ce qui nous anime, si on se pose les questions, quelles sont mes possibilités et qu'est-ce qui me bloque ? Une fois qu'on a fait ce travail, et là, on se pose. Ça, c'est important aussi, j'en parle. On ne peut pas faire tout ce travail-là, on ne peut pas visualiser si on ne prend pas du temps pour soi. Et comme on est dans une civilisation, que j'adore, attention, hein, Internet, les infos, toutes les secondes, et puis on semble obligé d'être toujours dans l'action, mais en étant toujours dans l'action, on n'est plus dans l'action quelque part. C'est une spirale qui devient négative. L'idée, c'est à un moment de se dire, stop, je vais justement me poser les bonnes questions, et en prenant du temps, les réponses vont venir. Ça vous est jamais arrivé, des fois, vous rêvez la nuit. Et puis, parce que le rêve, c'est une visualisation, vous rêvez la nuit et puis le matin, vous avez peut-être une réponse à une question que vous êtes posée la veille. Mais pourquoi ? parce que dans ce moment-là, vous n'étiez pas en train de vous dire, oh là, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse une troisième chose.
Et, la nuit, on débranche. D'accord.
Mais voilà, la nuit, on libère même des toxines du cerveau. Et puis souvent, au réveil, on a la solution. Et généralement, la solution, elle arrive. Et puis, deux secondes après, hop, vous ne l'avez plus si vous ne la notez pas.
Vous dites, Alain Lancelot, se poser les bonnes questions. Vous pouvez me donner un exemple de bonne question qu'on pourrait se poser ?
Oui, mais ça dépend de l'objectif. Les bonnes questions, ça peut être bah justement...
Attendez, vous moquez de moi. Vous vous dites, on ne peut pas atteindre l'objectif si on se pose les bonnes questions. Je vous demande une bonne question, vous me dites, ça dépend de l'objectif.
Non, mais ça dépend ce que vous voulez mettre en place. Si c'est la recherche de bonheur, si c'est changer de travail, si c'est gérer le stress... Non,
mais c'est mettre en place une bonne vie, puis c'est tout.
Oui, mais c'est quoi pour vous une bonne vie ?
Mais j'en sais rien, moi, ce que c'est une bonne vie. C'est une vie où je me réveille pas le matin en ayant peur de pas pouvoir payer mon loyer, de perdre mon travail, que mes enfants ne réussissent pas à l'école. Voilà, c'est ça une bonne vie. C'est une vie où déjà je n'ai plus ces peurs-là.
Et donc là, on a parlé de ce que vous n'avez plus envie. Maintenant, de quoi vous avez vraiment envie ? Est-ce que je suis obligé de courir après les choses pour les atteindre ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ce que j'ai autour de moi qui me donne des obligations ? Ça peut être ça les questions et prendre du recul. Ça peut être pour quelqu'un qui serait vraiment en grand stress. Voilà, la question. Qu'est-ce qui me stresse actuellement ? Est-ce que c'est mon travail, ma vie privée, ma famille ou autre ? Après, des fois, les questions, quand on a la réponse, ne plaît pas. Il faut changer quelque chose. J'ai des fois des personnes
ça,
qui viennent me voir.
C'est intéressant, la réponse n'est pas toujours celle qu'on souhaite.
Et non, on se pose des fois les questions et puis on a la réponse. Ah oui, mais c'est pas ce que je voulais.
Ouais.
Oui, mais des fois la bonne réponse n'est pas forcément ce que l'on veut. Donc l'idée c'est d'être honnête avec soi-même et le seul moyen d'être honnête avec soi-même c'est de prendre du recul par rapport à ce que l'on vit. On parlait tout à l'heure du stress, du burn-out, hein, des fois on tombe et souvent il y a des personnes qui refont la même chose. Mais si on refait la même chose, on a exactement les mêmes résultats.
Est-ce que vous pensez que la peur de perdre son travail, parce que c'est ça qui amène souvent au burn-out, c'est que la peur de se faire virer fait qu'on travaille 23h30 sur 24, est-ce que la peur de perdre son travail entraîne la perte du travail ?
Oui. Très souvent, j'ai eu l'occasion de me rendre compte. Mais pourquoi ? Parce que si vous avez peur, vous n'êtes plus à votre travail, vous n'êtes plus à ce que vous faites, donc vous faites du mauvais travail. Donc forcément, votre employeur, qu'est-ce qu'il va dire ? Plus ça va, plus tu fais du mauvais travail, donc je te vire.
Je comprends.
Donc plus on va chercher, en fait, à trouver une solution, généralement, et plus cette solution va devenir anxiogène. L'idée, encore une fois, c'est de prendre du recul, de voir ce que l'on veut changer, d'imaginer que cela change et qu'on a les possibilités de changer.
Donc, je peux imaginer que j'aurai, par exemple, un autre poste dans l'entreprise, un poste
Exactement.
Qui me va mieux.
Exactement. Et voilà. Mais parce qu'on va travailler sur nos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour nous ?
Donc, pour avoir un meilleur poste, qu'est-ce qu'on fait ? On s'imagine assis carrément au bureau, vraiment, on se le voit ?
Alors, on s'imagine comme ça et surtout, on se pose la question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir ce poste ?
Il n'y a aucune magie.
D'un côté, c'est concret en se posant la question, qu'est-ce que je peux mettre en place pour avoir ce poste-là ? Peut-être faire une nouvelle formation, peut-être prendre rendez-vous avec le directeur alors que j'ai toujours eu peur du directeur. Et puis après, se visualiser dans ce poste-là parce que quand vous allez prendre le rendez-vous avec le directeur, vous serez en position de force parce que vous serez congruent, j'allais dire, avec vous-même. Vous aurez envie de dire, voilà, je viens parce que là, je me plais plus où je suis. Voici pourquoi. Voilà pourquoi j'ai envie de prendre ce poste-là. Et là, n'importe quel directeur vous dira, effectivement, je trouve que vous avez une bonne démarche. Et s'il y a la demande, il vous donnera le poste.
Alain Lancelot, dans la visualisation positive pour les nuls, il y a un chapitre, je pense à ça pour le rendez-vous avec le directeur. Il y a un chapitre qui s'appelle « Se considérer comme l'égal des autres ».
Et oui, parce que c'est là on travaille sur l'estime et la confiance de soi. C'est la différence entre l'estime et la confiance de soi. La confiance, c'est on peut avoir confiance dans sa vie privée et puis ne pas avoir confiance du tout au travail. Donc c'est extérieur, c'est toujours par rapport aux autres. Mais avant tout, il faut travailler l'estime de soi. Comment on se voit soi-même ? On revient en fait sur ce travail intérieur. Donc si on n'a pas une bonne estime de soi, on se sent inférieur aux autres. Et d'ailleurs, ce qui est assez, non pas amusant, mais qui est assez étonnant, paradoxal, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas confiance et sont en dessous des autres vont utiliser des « je vais prendre un petit peu la parole, je vais prendre un petit rendez-vous, je vais te proposer un petit café ». Tout est petit et on minimise dans nos phrases. En fait, c'est une pensée orale, une phrase. Donc souvent, on ne se rend pas compte de ce que l'on dit et on voit cette insécurité retranscrite dans les phrases.
Par exemple, celui qui n'a pas une bonne image de lui-même, celui qui n'a pas confiance en soi, il va appeler le patron en disant « je voudrais un petit rendez-vous ». Jamais il dira « je voudrais un bon grand rendez-vous ».
Et voilà, Ah oui, c'est... excusez-moi de vous déranger un petit peu. C'est ça, on l'utilise. Hein. Excusez-moi de vous déranger un petit peu. Ou c'est la personne aussi, quand vous lui dites quelque chose, ça s'est bien passé. Ah non, 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 ça s'est très bien passé. On utilise le non. Très souvent, faites attention autour de vous. Même des fois, nous-mêmes, on dit ça s'est bien passé. Oh non, non, ça s'est bien passé. Et on utilise la négation. Donc, on se met dans une spirale d'échec. Et puis, on est toujours dans le petit non. Ayez un grand rendez-vous, un grand moment de bonheur, justement.
Nous parlons de la visualisation positive avec vous, Alain Lancelot, ce soir, auteur d'une révolution positive chez Larousse et l'adaptation pour la France de la visualisation positive pour les nuls.
C'était qu'une passade digitale et j'en retiens que dalle. Rouge et le pétale sur mon lit d'hôpital et tu disais promis on se fait pas de mal, promis je monte la carte. Pourtant c'est l'escalade, les sentiers en zigzag. T'étais qu'une passade digitale et j'en retiendrai que dalle, je sais.
Passade digitale, c'était la belle voix de Marie-Flore. Nous parlons de la visualisation positive avec vous, Alain Lancelot. Donc nous avons dit il y a un instant qu'il fallait repérer ses tracas, repérer ses douleurs, les identifier pour soit les balayer, soit les laisser passer, soit avec un peu de bol si elles s'évaporent. Mais vous expliquez bien également dans vos livres qu'il faut s'appuyer, avoir comme base de lancement des bons moments. Essayer de se remémorer les compliments qu'on a reçus,
exactement,
les moments joyeux qu'on a vécus.
Si vous permettez, on va faire une petite expérience très très rapide. Là, je vous demandais que cela soit vous, mais même aux éditeurs, auditrices ou même en régie, en deux secondes, de visualiser là, en fermant les yeux, la dernière fois on vous a dit « je t'aime », on vous a fait un compliment.
Ouais.
Visualisez-le vraiment, la dernière fois on vous a dit « oh, bravo, c'est génial ce que t'as fait ». Là, devant moi, vous avez un sourire.
Bah oui.
Et je suis sûr que si je regardais derrière moi, il y aurait un sourire aussi. Mais,
oui,
mais ça veut dire que ça fonctionne.
C'est vrai.
Automatiquement. Ouais. Mais vous savez, le problème de reconnaissance, reconnaître les choses. Le problème de reconnaissance, c'est l'un des plus gros problèmes de stress en entreprise, de burn-out actuellement, on en parle beaucoup. Il n'y a pas assez de reconnaissance du travail accompli. Mais ça veut dire qu'il faut être aussi reconnaissant vis-à-vis de soi-même quand on fait du bon travail.
D'accord. Reconnaître. C'est vrai que parfois, on dit, bon, le monde est dur, la vie est pourrie, et on a tendance à passer sous silence les bons moments.
Ah mais totalement. Souvent quand je fais des ateliers ou dans mes conférences, je demande aux gens tout de suite, maintenant vous allez me lister très rapidement vos 5 qualités. Et là j'ai toujours, oh, mais 5 c'est beaucoup. Ah mais des qualités. Par contre, si je demande les défauts, on les trouve très rapidement.
Ah pourquoi ? C'est incroyable ça. On va plus vite à trouver les problèmes qu'à trouver les solutions. On va plus vite à trouver les défauts qu'à trouver les qualités.
Ah toujours, bah regardez dans la vie quotidienne. Alors j'ai lu certains articles d'éminents spécialistes qui disaient que le cerveau était plutôt ancré sur la négation. Alors que le cerveau n'entend pas la négation. Ouais. Si par exemple je vous dis ne voyez pas un éléphant rose, vous allez le voir tout de suite. Surtout ne stressez pas, c'est le meilleur moyen pour qu'une personne stresse. Ouais. Puisque le cerveau va d'abord voir l'image, justement, donc le stress, et après il va traiter l'information de la négation.
Ah bon, alors ce qui veut dire à la Lancelot qu'il faut dire soit à l'heure, il ne faut pas dire ne sois pas en retard, mais sinon exactement. Le cerveau il imprime retard.
Mais oui, pour un enfant, surtout ne tombe pas, fais attention de ne pas tomber, vous êtes sûr que l'enfant tombe.
Donc, se baser sur des bons moments. Allez, un bon moment, un extrait du film Un jour sans fin.
Une fois, j'ai visité les îles Vierges. Il y avait cette fille. On a mangé du homard, bu des pina colada. Au crépuscule, on a baisé comme des otaries. C'était pas si mal comme journée. Pourquoi je revis pas cette journée-là ? Encore et encore.
France Inter. Noël Bréham, état d'esprit.
J'ai pas pensé à me renseigner sur la vie privée des otaries, mais en revanche, ce film d'Harold Ramis de 1993 raconte la vie en fait d'un journaliste. Tant qu'il n'évolue pas, la journée recommence.
Mais vous savez, c'est un peu ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Combien de personnes me disent « Ah, mais j'arrive toujours, ou je tombe toujours sur les mêmes personnes. Oh, » C'est pas possible. Ça marche pas, je retombe toujours sur une personne qui ressemble à l'autre.
Les répétitions, Alain Lancelot.
Oui. Les répétitions, ou j'arrête un travail, j'en reprends un, et ça fonctionne toujours pas. Et on se dit toujours « Bon, bah c'est faux, t'as pas de chance. » La réponse n'est pas extérieure, mais intérieure. Se poser « Pourquoi ça me rassure de faire toujours les mêmes choses ? Pourquoi ça me rassure de prendre toujours les mêmes personnes ?» Peut-être parce que ça vient d'un désir plus profond, ou ça répond à une question plus profonde. Donc c'est cette idée de sortir justement du cercle.
Et on peut.
Eh bien,
c'est
sûr
ça
qu'on peut.
Votre truc. On a le droit.
Mais voilà, s'autoriser.
Et la possibilité d'avoir une jolie vie.
Mais oui.
Tous.
Oui, tout le monde s'autoriser à déjà se dire je ne suis pas nul. Parce que plus on le répète, mais même des fois dans l'enfance, hein. Oh, mais t'es nul de pas y arriver. Oh, mais c'est pas possible.
Et vous écrivez pour les nuls.
Oui, mais justement. Oui. Justement
les nuls ne sont pas nuls.
Et voilà, justement, la correction, c'est fait pour que les nuls se rendent compte qu'on ne sait pas. Mais à partir du moment où on ne sait pas, on peut apprendre. Quelqu'un qui se dit, je sais tout, il peut plus apprendre. Quelqu'un qui se dit, j'ai encore des choses à apprendre, là, il a la capacité intellectuelle d'apprendre.
Alors, vous avez plusieurs chapitres qui sont quand même passionnants, hein, dans justement la visualisation positive pour les nuls. Le besoin d'avoir raison. Pourquoi ?
Ça, c'est... On a toujours besoin d'avoir raison. C'est une sorte de... C'est aussi une peur de remettre en cause son intégrité, mais également sa façon de penser. Moi, quelqu'un qui me dit « vous avez tort », mais je ne suis pas content de le savoir. Mais du coup, expliquez-moi pourquoi. Et là, le dialogue peut s'engager. Et donc, moi, je vais apprendre d'autres choses. Cela, c'est une spirale positive. Alors que si on se dit « ah, mais je vais avoir raison parce qu'il est hors de question que j'ai tort », on se bloque, on s'enferme, on n'entend plus les choses qui peuvent nous faire évoluer. Et effectivement, au bout d'un moment, on stagne.
Donc, Alain Lancelot, vous suggérez, quand quelqu'un vous dit « vous avez tort », de vous en réjouir et d'en profiter pour apprendre quelque chose.
Si effectivement oh, vous avez tort, ah oui, mais expliquez-moi pourquoi. Si la personne dit simplement ça parce que elle est pas contente ou elle est jalouse ou peu importe telle ou telle émotion, là évidemment. Mais si la personne développe un autre point de vue, mais je serai très heureux parce que ça me permettra de prendre du recul par rapport à ce que j'ai dit, peut-être de reconnaître que j'ai eu tort. Mais c'était Churchill qui parlait beaucoup des échecs et qui dit c'est pas quand on a toujours raison qu'on arrive à évoluer.
Mais alors justement, vous suggérez de très souvent battre en retraite finalement dans le j'ai raison.
Mais oui, parce que si à un moment vous c'est voyez stérile, qu'il n'y a plus la, dans la communication, il y a la non-communication, une personne qui ne veut pas vous répondre, c'est pas la peine, vous lâchez prise et vous verrez qu'au bout d'un moment, elle reviendra vers vous, peut-être en changeant d'idée.
Ça, c'est intéressant. Dans le besoin d'avoir raison, lâcher prise plutôt que de lutter jusqu'à la mort. Et l'autre dira bah non, finalement, peut-être, c'est le meilleur moyen de convaincre l'autre que de lui dire ok, t'as raison.
Exactement. Exactement. Et ça vous évite, vous aussi, de générer du stress et de vous énerver, parce que la colère, elle va vite monter. Hein. Ah. Donc après, vous n'êtes plus capable de répondre et d'être dans vos sentiments à vous, parce que vous vous mettez hors sentiment.
Comment ça vient, la colère? Comment ça gère, la colère? Qu'est-ce qu'on fait de cette colère, Alain Lancelot?
Alors, la colère, il faut l'accepter, parce que c'est utile aussi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'a pas été reconnu chez l'autre par rapport à vous.
Ouais.
Et bien, l'idée, c'est de la gérer physiquement parlant. C'est le souffle.
Oui.
Vous dites quelque chose à votre enfant. Il n'est pas content. Qu'est-ce qu'il fait automatiquement? Mais d'accord, ça énerve.
Mais il a raison.
Parce que lui, vous lui donnez une émotion. Bah, lui, il n'a pas envie de cette émotion, donc il vous la redonne. Et généralement, vous, ça vous énerve. Donc du coup, vous montez la voix.
Soupirer pour sortir le mauvais.
Exactement. D'accord. L'idée, ça va être de relâcher, en fait. Et là, on utilise des exercices de sophrologie ou d'autres techniques de façon à pouvoir dire, allez, je lâche. Parce que si vous gardez à l'intérieur de vous toute cette colère, au bout d'un moment, alors le verre va être plein et vous allez exploser. Au bon moment. Hein. Vous avez vu, on explose généralement jamais quand on est seul. C'est toujours quand il y a une petite phrase qui arrive et qui fait déborder le vase et d'un seul coup, là, on explose. Donc l'idée, c'est d'éviter de remplir de trop la cocotte minute pour éviter qu'elle n'explose.
Vous m'avez dit, on ne s'occupe pas assez du corps. Et là, vous venez de me dire qu'une colère, ça s'évacue avec le corps, avec le souffle, et même en haussant les épaules, peut-être.
Ah mais totalement, on a un exercice comme ça qui permet, on lève les épaules et on lâche tout. Vous savez, comme si vous avez des sacs poubelles, vous lâchez.
Et dans les sacs poubelles, on met les pensées négatives.
Exactement.
Vous l'expliquez dans votre livre.
Exactement. Oui. On met toutes les pensées négatives. Alors, on peut utiliser également les valises. J'ai une personne un jour qui m'a dit, oh, moi, les sacs poubelles, je j'aime pas les poubelles, c'est pas moi qui les descends. Mais du coup, je suis toujours en voyage. Mais j'ai utilisé des valises. Les valises, des fois, on a envie de les poser, les valises. Si vous faites un tour du monde, mais vous faites que le tour du monde, bon, au bout d'un moment, vous êtes épuisé. Vous
ne
profitez de rien.
Alain Lancelot, on visualise, on met dans les valises tout ce dont on veut se débarrasser.
Exactement.
Et on monte les épaules jusqu'aux oreilles.
La respiration et on souffle.
Et on lâche les bras et les valises.
Voilà. Et donc, physiquement parlant, parce que généralement, quand on a du stress, on est d'accord, c'est au niveau des épaules, hein.
Ouais.
Au niveau du dos aussi, quand on en a plein le dos. Et ben, l'idée, ça va être mécaniquement de libérer les tensions du corps et un lâcher-prise corporel va permettre un lâcher-prise mental. Quand on a trop d'émotions, j'allais dire, trop d'émotions tue l'émotion. Donc l'idée, c'est aussi de limiter, d'être dans l'équilibre. Et donc pour ça, videz le corps, faites alors des là, on commence à avoir un temps superbe, sortez dehors. L'idée, vous pouvez ou utiliser des techniques qui existent et qui fonctionnent, mais ça peut être faire du sport, ça peut être simplement s'occuper de soi. Là, tous les magazines féminins vont parler des régimes. Mais vous vous rendez compte, tout ce qu'on fait subir, alors c'est pour les hommes aussi, hein, parce que nous aussi, on fait très attention à nous.
Mais là, le corps,
si on
s'en occupe pas, on le maltraite.
Mais on le maltraite. On fait semblant de s'en occuper, mais on s'occupe de l'extérieur. Seulement, à l'intérieur, on maltraite vraiment le corps.
Ça, en tant que sophrologue, vous, Alain Lancelot, vous dénoncez les régimes. Vous dites vraiment, on s'occupe que de l'apparence et pas du bien-être, le vrai.
Mais parce que aussi, on veut toujours perdre du poids. Vous avez envie de perdre quelque chose? Je vous dis, écoutez, vous allez sortir et puis je vais vous proposer de perdre votre portefeuille. Vous allez me dire oui?
Non.
Bah alors pourquoi vous voulez perdre du poids?
Bah parce que mon portefeuille m'apporte plus de satisfaction que mes bourrelets.
Oui, mais simplement, peut-être que vous pouvez vous dire, je vais gagner une silhouette.
Ah, dans la formulation.
Mais dans la formulation, encore
J'entends.
Une fois, c'est la formulation positive.
D'accord.
Si on vous dit, je vais perdre du poids, c'est-à-dire que vous êtes déjà en train de vous obliger à perdre quelque chose.
D'accord.
On n'a pas envie de perdre, moi j'ai pas envie de perdre. Par contre, gagner en sveltesse, gagner une taille de pantalon, gagner une taille de robe, là on a envie. Et là, on se met dans l'idée de gagner quelque chose. Et là, on est dans le positif.
Et vous parlez également, Alain Lancelot, à propos du corps, d'aimer son corps.
Ah mais oui.
On n'est pas très fort pour ça, on voit toujours ce qui cloche quand on se regarde devant la glace.
Ah tout à fait, on voit ce qui cloche, on voit ce qu'on n'a pas envie, mais on ne voit pas les choses qui sont fantastiques.
Alors qu'il est pas mal notre corps quand même, moi je vois ici aux uns aux autres, moi je dirais tous à poil, je vous assure, je pense qu'on est bien.
Mais oui, nous sommes bien et tous les spectateurs et téléspectatrices, de toute façon, ont le corps dont ils ont besoin pour vivre leur vie. Maintenant, s'ils veulent s'en occuper vraiment, ils se posent, qu'est-ce que j'aimerais changer? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour changer? Mais surtout, pourquoi j'ai envie de le changer?
Pourquoi?
Oui, parce que si on se pose les bonnes questions, on trouvera les bonnes réponses. Et ça n'engage que moi, mais je pense que toutes les solutions sont simples. Vous avez reçu Christophe André.
Oui.
Il vous a parlé de la pleine conscience. Mais quand on prend pleinement conscience de son corps, et j'en parle beaucoup aussi, quand on prend pleinement conscience de son corps, bah on se sent forcément bien avec. Et là, du coup, les cellules
prendre
se mettent en place.
Prendre conscience de son corps. Penser qu'on respire, qu'on se tient droit.
Mais voilà, mais déjà, c'est miraculeux quand même.
Penser à la brise sur la peau.
Mais oui, c'est 60 000 pensées par jour dans la tête. 15 000 respirations par jour. Vous imaginez, on s'en rend pas compte. Mais il est fantastique, notre corps. Après, il y a des petits aménagements, mais comme tout. Donc, du coup, on va mettre en place les aménagements. Mais en prenant du plaisir. L'idée, c'est de prendre du plaisir.
Tu sais, il y a des mecs, en regardant ce verre, qui pourraient se dire « ce verre est à moitié vide ». Et d'autres gars diraient « ce verre est à moitié plein ». Eh ben, je parie que t'es le genre « le verre est à moitié vide ». Est-ce que je me gourre ?
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange.
Noël Bréham, état d'esprit.
C'était les Doors. Les gens sont étranges. Les gens sont étranges quand tu es un étranger. Les visages ont l'air laids quand tu es seul. Les femmes semblent méchantes quand elles ne veulent pas de vous. Les rues ne sont pas tranquilles quand tu as le cafard. C'était les premières paroles de cette chanson. Ça va complètement avec ce que vous dites, Alain Lancelot. Alain Lancelot, coach, Alain Lancelot, auteur d'une révolution positive chez Larousse et de la visualisation positive pour les nuls. C'est drôle parce que les Doors disent exactement ce que vous dites depuis le début de l'heure, hein,
Alain Lancelot. C'est exactement ça. Vous savez, des fois le matin, il suffit d'une pensée positive ou d'un petit je t'aime ou de quelque chose pour faire que la journée se passe très très bien. Il suffit d'une mauvaise nouvelle ou d'un pied qui se coince, je sais pas, sous un meuble ou autre pour dire, oh là là, ça va être terrible cette journée, et vous enchaînez les catastrophes. Mais
c'est vrai.
Ce sont pas forcément des catastrophes. Vous les voyez par le prisme négatif. Votre esprit l'aura vécu différemment, selon si vous avez fait une visualisation positive ou négative.
Alain Lancelot, vous dites qu'il faut se débarrasser des pensées négatives, ne pas les nourrir, ne pas les entretenir, sinon elles grossissent, elles grandissent, elles prennent toute la place. Ouais. Mais en même temps, vous dites que ces pensées négatives peuvent avoir leur charme et leur utilité.
Ah ben oui, là j'en ai marre qu'on me dise que je pense mal. Et qu'il faut penser comme ça, comme ça, comme ça. C'est mon petit côté rebelle, peut-être. Et l'idée, c'est de temps en temps, mais moi, j'ai envie d'être nostalgique. Je parle du romantisme. Relisez des textes de grands romantiques, mais vous prenez un vrai plaisir.
Ou écoutez Chopin, oui.
Mais voilà, vous prenez un vrai plaisir à écouter ces musiques-là. Et pourtant, vous sortez pas en disant « Ouais, chouette, j'ai vu quelque chose !» Mais par contre, vous êtes dans cette nostalgie agréable. Donc, les pensées pas négatives, mais les pensées tristes peuvent vous emmener dans un état qui vous emmène vers le bonheur. Je prends toujours l'exemple de Venise parce que j'adore cette ville-là. Allez à Venise, soyez très heureux à Venise sous un soleil de plomb, vous passez à côté de Venise. Par contre, vous y allez, vous voyez une personne passer dans une ruelle, vous prenez un vaporetto, c'est un peu mystérieux. Vous avez ce sentiment de vous ennuyer un petit peu. Mais vous gardez un souvenir mémorable de ça. Le plaisir de s'ennuyer. Une fois, on me dit, mais c'est quoi le bonheur? Et une fois, j'avais répondu, mais j'ai ennuyez-vous et vous le trouverez. Parce que on ne s'ennuie plus. Les enfants ne s'ennuient plus. Les grandes personnes ne s'ennuient plus non plus. Hein. J'ai une fois une personne qui m'a dit, ah ça y est, enfin, je pars en vacances. Ah, c'est bien, vous allez vous reposer. Oh, oui, mais enfin, bon. Et puis elle m'a cité toute la journée. Le matin, le soir, elle avait des visites. Elle était très contente de les faire. Et à la fin, je lui ai dit, et donc vous partez en vacances quand? Pour se reposer, il faut déjà se poser une fois. Si on se dit, on veut se reposer, mais on ne se pose pas. Donc si on ne se pose pas, on ne peut pas se reposer.
Donc vous vantez l'ennui, Alain Lancelot, et vous ne vantez pas, mais vous dites qu'on a le droit à l'erreur.
Ah mais oui, mais heureusement, parce que sinon ça veut dire qu'on veut toujours faire bien. Et déjà, faire bien, ça veut dire quoi? C'est très personnel.
Oui. Aussi quand même, si par moment dans son métier on peut faire des erreurs dans l'éducation des enfants.
Oui, mais ça dépend aussi des cas, ça dépend, alors je prends un cas extrême, mais tuer quelqu'un en temps de paix c'est quelque chose de terrible, en temps de guerre vous avez une médaille. Ouais. Donc c'est quoi une erreur? Ouais. On fait une erreur un jour, d'accord. On fait pas une erreur un jour. Ouais. C'est-à-dire que ça dépend en fait du référentiel. Ouais. Et puis, quelque part, s'autoriser à faire des erreurs, ça veut dire qu'on s'autorise à prendre du recul sur les choses. Ouais. Est-ce que vraiment, si on se trompe, c'est grave?
D'accord.
Et puis, comme je le disais tout à l'heure, hein, c'est avec les erreurs qu'on peut grandir.
Donc, Alain Lancelot, on a le droit à l'erreur.
Oui.
Et alors, ce qui découle hein, de ce droit à l'erreur, se pardonner.
Ah bah oui.
On a du mal, hein.
On a beaucoup de mal. On a beaucoup de mal parce que, justement, ou par rapport à nous, ou alors par rapport aux autres. On voudrait être parfait. On voudrait que l'autre nous aime pour nos perfections. Alors que, souvent, c'est l'imperfection de l'autre qu'on aime bien. C'est la personne qui est comme ça, et ça nous fait sourire, ça nous attendrit, et puis du coup, on va tomber amoureux de la personne. Même si on aime bien les choses qui sont bien faites, hein. Mais, et puis, c'est aussi s'autoriser à se dire, je ne suis pas parfait. Donc,
oui, mais alors on en revient à l'image qu'on a de soi-même. Si on a une belle image de soi-même, on peut s'autoriser à ne pas être
exactement
parfait.
L'estime de soi. Si on s'aime, eh bien, on s'autorise aussi de temps en temps à ne pas être toujours à son top. Et puis quand on n'est pas à son top, eh bien, du coup, on a ces petites pensées nostalgiques. Eh bien, du coup, on profite de ce moment-là. On a besoin aussi des émotions négatives. On a besoin de ce moment, de tomber pour relever. Et je trouve que l'erreur, les imperfections sont une force plutôt qu'une faiblesse.
Et enfin, vous parlez également, Alain Lancelot, dans vos livres, de savoir se taire. On va terminer là-dessus. Qu'est-ce que c'est savoir se taire?
Savoir se taire, c'est savoir faire du silence au bon moment. C'est-à-dire, on a toujours un remue-ménage, je disais 60 000 pensées par jour. On a toujours un remue-ménage dans la tête. Dehors, ça grouille de partout. Et l'idée, c'est de se dire, je rentre dans un mouvement. Ou alors, je me pose au milieu de ce mouvement, je regarde les autres, j'utilise le mouvement qui se passe autour de moi, mais moi, je me pose. Je regarde ça avec un petit peu de recul, puis je me dis, qu'est-ce que je vais utiliser là-dedans? Mais je ne me laisse pas embarquer. Ça permet de revenir à cette notion de pleine conscience à l'intérieur de soi. Je me pose, je regarde, et qu'est-ce que je prends? Et si on prend que ce qu'on a envie de prendre, déjà, il y a beaucoup de choses à prendre, et puis on n'a pas assez d'une vie pour le faire.
Savoir se taire. Merci Alain Lancelot. Savoir lire Une révolution positive édité chez Larousse et La visualisation positive pour les nuls chez First. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous remercie d'être venu.
Merci beaucoup et merci de votre positivisme.
Vous parlez vite Alain Lancelot, mais on peut réécouter cette émission quand bon nous semble. On peut la podcaster, on peut la télécharger, on peut également la partager. La semaine prochaine, nous recevrons Laurent Gounel pour parler de soi et surtout d'arriver à être soi-même. C'était État d'esprit, réalisation Marjorie de Voucou, préparation Marie-Claire Matoute, choix des disques Muriel Pérez, prise de son Juliette Del Pérou. Après les informations, vous aurez rendez-vous avec Brigitte Patient pour Regardez voir.